RCFM, Christine Allouzi, les experts.
Et bonjour et bienvenue dans les experts. Bon lundi à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Envoyez-moi des messages d'ailleurs pour me dire ce que vous avez fait ce week-end. On va parler des divorces aujourd'hui dans les experts. Alors si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Je serai en compagnie de Maître Bastien Kerr, qui est un spécialiste dans les divorces justement. Donc toutes vos questions, 04 95 32 22 22. Carole vous accueille au standard. Et moi je lis tous vos messages sur nos réseaux sociaux.
Les experts, 9h30, 10h30, Christine Allouzi. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party, everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm no.
Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. Like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, cause I don't care.
Sharon, I don't care.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
On parle divorce ce matin dans les experts avec Maître Bastien Kerr. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes avocat au barreau de Nice.
Tout à fait.
Et vous êtes spécialiste dans les divorces, du divorce, Bastien.
Tout à fait.
Alors, je vous propose qu'on fasse la chose suivante, puisqu'il y a une actualité sur le divorce, vous le savez. Il y a la loi qui a évolué, qui a changé, et ça va un petit peu bousculer, on va dire, votre métier. quelque part.
C'est sûr, c'est sûr. Une réforme qui fait couler beaucoup d'encre. Une réforme qui vise néanmoins à essayer de simplifier le recours au juge dans le cadre d'un divorce, puisque en réalité, jusqu'à aujourd'hui, nous avions deux instances, une instance pour la conciliation et une instance pour le divorce en lui-même, ce qui faisait que les procédures étaient particulièrement longues. Il fallait attendre un an et demi avant de pouvoir espérer divorcer dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, on va essayer de simplifier tout ça en ne faisant qu'un acte et une seule procédure unique. C'est le point phare de cette réforme. Deuxième point très important, l'avocat devient obligatoire, ce qui n'était pas le cas avant. Les personnes avaient toujours la faculté de pouvoir se défendre seules. Aujourd'hui, on passe sur une procédure avec représentation obligatoire. Et dernier point important sur cette réforme, nous avions trois motifs de divorce. Le divorce pour faute, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour acceptation du principe de la rupture.
On va en parler de tous ces...
Voilà, on va en parler un petit peu. C'est trois raisons qui font qu'on peut divorcer aujourd'hui. Et on a un petit peu également modifié le contenu de ces raisons, notamment en faisant passer un délai de 2 ans à 1 an pour l'altération définitive du lien conjugal, donc pour demander un divorce sur ce motif.
D'accord. Bah alors, puisque vous parlez de ça, qu'est-ce que c'est ce type de divorce pour altération du lien conjugal ?
Altération du lien conjugal, c'est finalement le fait que les époux vivent séparés ou du moins ont accepté ce principe de séparation et ils résident séparément depuis minimum plus de 2 ans avant la réforme et ce sera maintenant plus d'un an, enfin environ 1 an après leur séparation et ce sera un motif de divorce puisqu'on considérera que les époux ne sont plus à même de vouloir avoir une communauté ou d'intérêt. Voilà, tout simplement.
Donc c'est quelque chose qu'on fait constater par un huissier. Comment ça se passe, maître ?
Il y a plein de façons. En règle générale, quand on est sur ce genre de motifs de divorce, il y a quand même un principe d'accord au départ entre les parties. Donc il y a très peu de remise en cause sur la durée de la séparation. Donc ce fameux délai de 2 ans qui passera à 1 an. C'est-à-dire que les époux sont capables de le prouver. Après, c'est facile à prouver. Il suffit qu'un des époux parte, il va donner un justificatif de son nouveau domicile et on arrivera à calculer à partir de ce moment-là, à partir de quand les intérêts ont été scindés entre les époux. En fait, tout simplement.
Donc, une simple facture EDF ou une quittance de loyer, ça peut faire l'affaire ?
Ça peut faire l'affaire, ça peut être un élément de preuve. Après, le recours au constat d'huissier n'est pas un préalable obligatoire. Il peut être important puisqu'on appelle ça la reine des preuves, le constat d'huissier, mais on pourra tout à fait, avec une quittance de loyer, un bail ou voir des attestations, démontrer que les époux sont séparés depuis plus d'un an.
Est-ce que, par exemple, on extrapole, hein, mais si l'époux victime, j'ai envie de dire, est-ce qu'il peut riposter à cette demande d'altération définitive du lien conjugal, est-ce qu'il peut riposter par une demande de divorce pour faute, par exemple ?
Tout à fait, tout à fait. On a tout à fait la possibilité de défendre son motif de divorce à charge pour la personne qui l'invoque, bien évidemment, d'en apporter la preuve.
D'accord. Donc, par exemple, divorce pour faute, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous, maître.
Alors, le divorce pour faute, ben comme son nom l'indique, on considère qu'il faut apporter la démonstration d'une faute dans les obligations du mariage, ces obligations qui sont les obligations prévues par l'article 215 du Code civil. Nous avons l'obligation de fidélité, l'obligation de communauté de vie et la nécessité pour les époux de participer ensemble aux charges du mariage. Ce sont autant d'obligations, on va dire, contractuelles qui sont imposés aux époux et il appartient à celui qui demande un divorce pour faute d'apporter la démonstration que ces obligations ont été violées.
Alors évidemment, on a des questions sur l'infidélité.
Oui, je me doute.
Donc je donnerai pas de nom. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, si par exemple, on sait que votre mari, votre femme vous trompe, et que vous pensez au divorce, bien évidemment, quelles sont les choses à faire ?
Alors, il faut savoir que depuis l'évolution de la jurisprudence, enfin, il y a eu une vraie évolution de la jurisprudence en la matière. S'il y a quelques années en arrière, on pouvait mettre en avant un divorce pour faute pour adultère. Aujourd'hui, ce n'est plus une cause de divorce à proprement parler. C'est-à-dire qu'il faut que cette faute soit accompagnée de la démonstration d'une faute annexe ou connexe. Ce que je veux dire par là, c'est, je vous donne un exemple, si on a un époux qui se rend coupable d'un adultère, il faudra que, en même temps, on arrive à prouver, donc évidemment,
l'adultère et la gravité.
Voilà, ça peut être un détective privé, ça peut être des attestations de témoins, ça peut être le fait que monsieur ait quitté le domicile conjugal. D'ailleurs, ce qu'on conseille très souvent aux clients et aux clientes, bon, très souvent à nos clients, d'une manière générale, c'est quand on quitte un domicile conjugal, nous avons l'obligation de communauté de vie dans le mariage. C'est-à-dire que les époux sont censés résider ensemble. C'est une obligation prévue par l'article 215 du Code civil. Si un époux quitte le domicile, il se rend coupable de finalement de d'une violation de cette communauté de vie qui est imposée par le mariage.
Donc et la solution, c'est un divorce pour faute du coup.
Ça peut être constitutif d'un divorce pour faute, bien évidemment, en étant étayé, parce qu'il faut voir dans quelles conditions il part, parce qu'on a aussi des époux qui partent parce que le contexte à la maison est particulièrement difficile, avec parfois des climats de violence. Donc il est parfois préférable que un des époux s'en aille pour éviter d'envenimer la situation, et ça évite bien des problématiques, surtout en présence d'enfants.
On voilà. a une question d'une première auditrice qu'on va accueillir.
Oui.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Bonjour Marie.
Oui, bonjour, c'est à moi déjà, c'est bien.
Oui.
Bonjour, excusez-moi.
Bonjour.
Voilà. C'était juste une question, je suis un peu dans le flou, je suis séparée depuis une vingtaine d'années de plus, mais non divorcée. Je voudrais savoir, si je veux divorcer, quelle est la procédure à faire? Ou est-ce que c'est nécessaire, après tant d'années de séparation, de vraiment passer par...
La case divorce.
Oui.
Donc déjà, si vous vous posez la question...
Ouais.
Alors, maître Bastien Kerr.
Alors, c'est vrai que ce genre de situations sont des situations qui n'arrivent pas au quotidien, puisqu'on reste que les clients restent rarement mariés 20 ans en étant séparés. Après, on le voit souvent dans des problématiques religieuses, ce genre de situation, notamment les personnes de confession musulmane qui en font un principe de ne pas divorcer. Dans votre cas de figure, aujourd'hui, vous avez la possibilité de divorcer. Après, la décision vous appartient, mais vous êtes directement dans ce cas de figure de l'altération définitive du lien conjugal, j'ai envie de dire à l'extrême, puisque ça fait largement plus de 2 ans que vous êtes séparés, donc ce sera pas très compliqué de prouver que vous êtes séparés, et c'est une cause de divorce qui finalement n'a pas vraiment besoin d'être motivée pour obtenir gain de cause, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on démontre que vous êtes séparés depuis tant d'années, le juge automatiquement validera le divorce sur ce motif.
Oui. Mais quelle serait ma démarche? Moi, je dois aller... Qui je dois voir au départ?
Alors,
je dois prendre un avocat ou...
Alors aujourd'hui, au moment où je vous parle, comme la réforme n'est pas entrée en vigueur, il faut savoir, je le précise, que cette réforme dont j'ai parlé en début d'émission est une réforme qui était applicable au 1er janvier 2020 et le ministère de la Justice vient de déplacer et reporter les effets de cette réforme au 1er septembre 2020. Donc aujourd'hui, vous êtes toujours dans le cas de la loi actuelle. Vous avez la possibilité de saisir le juge seul par requête, sans avocat, ou alors de prendre les conseils d'un avocat, tout simplement, qui lui s'occupera de mettre en place la procédure.
Mais c'est toujours plus conseillé, maître, non ?
Ah ben après ça dépend, oui, en règle générale il y a rarement des gens qui s'engagent dans une procédure aussi complexe sans l'aide d'un conseil. Après ça appartient à tout le monde.
Et est-ce que dans ce cas-là je dois, mon ex-mari si je peux dire, doit venir avec moi ou est-ce que...
Non, vous pouvez faire ce qu'on appelle une requête unilatérale. Ouais, tout à fait. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une requête unilatérale en divorce et monsieur sera convoqué par le tribunal puisque vous allez déposer ce formulaire que vous allez remplir avec vos pièces justificatives comme elles sont indiquées dans le formulaire. D'accord. Et le tribunal va convoquer votre époux à une audience de conciliation. C'est une audience où on va essayer d'abord de rapprocher les parties sur les différentes facettes de ce divorce et après vous serez un peu plus tard vous repasserez devant le juge pour que le divorce soit prononcé.
Mais on va être obligatoirement, on va se retrouver face à face, j'allais dire, à un moment,
tout
à un
fait,
moment ou un autre.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Ah, voilà, ouais, c'est ça. D'accord.
C'est ce que vous ne vouliez pas, Marie. Ouais.
Non, c'est pas que je ne veuille pas vraiment, mais je ne sais pas s'il viendra, quoi. Voilà, c'est ça. Bon.
Ah mais alors maître, est-ce que la présence des deux époux justement est nécessaire?
Alors la convocation vise monsieur à venir à l'audience, il peut tout à fait décider de ne pas venir et le juge en tirera les conséquences et statuera uniquement sur les demandes qui sont formées par madame. Donc bien évidemment le divorce peut être acté même en l'absence de l'époux défendeur.
D'accord. Voilà.
Est-ce qu'il peut se faire par exemple représenter par son avocat uniquement?
Tout à fait. Et il a la possibilité de ne pas venir à l'audience, alors sauf à la conciliation, puisqu'à la conciliation, la présence est obligatoire, même s'il y a un avocat au départ. Pourquoi ? Parce que le juge essaie de concilier les parties. Maintenant, vous avez des cas où, malgré tout, les personnes ne viennent pas, et le juge en tire toute conséquence.
Marie,
après tant d'années de séparation, et on est quand même obligé d'avoir une conciliation. Voilà, c'est ça que je voulais savoir.
Tout à fait. Après, vous avez aussi une phase, une dernière possibilité de divorcer, qui est ce qu'on appelle le divorce par acte d'avocat. Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est important. C'est ce qu'on appelle le divorce par consentement mutuel, qui est un divorce où, justement, vous êtes représenté chacun par un avocat et qui vous permet de, finalement, sortir, vous, de ce contexte conflictuel ou pas. Et c'est aux avocats de gérer. Et au final, vous mettez d'accord sur tout. Vous n'avez pas besoin de passer devant un juge.
Il n'y a pas de conflit, rien, on s'est séparés à l'amiable.
Voilà, raison de plus. Alors, moi, la lecture.
On n'a jamais fait la justifier devant.
Tout à fait. Mais si vous voulez, votre cas est un cas, j'ai envie de dire, pacifique. C'est un cas, oui, mais c'est un cas pacifique. C'est un cas où il n'y a pas de conflit. Donc, vous avez la possibilité, en discutant, de faire en sorte que des avocats viennent au milieu de votre dossier et entérinent un accord entre vous et vous divorcez très rapidement. C'est-à-dire qu'en un mois et demi, vous êtes divorcé.
D'accord.
Bon. Donc, ça serait plutôt un divorce par consentement mutuel dans
tout
le cas de Marie.
Tout à fait. Enfin, c'est ce que je lui conseille. Après, bien évidemment, ça va dépendre de la position de monsieur. Parce que si elle craint déjà qu'il ne se présente pas devant un juge.
Voilà, c'est pour ça
Voilà, la solution, bien évidemment, comme son nom l'indique, le divorce par consentement mutuel suppose l'accord des parties, donc la présence des parties. C'est une condition obligatoire pour que celui-ci soit réalisé.
D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous, Marie, de nous avoir appelé.
Bonne journée. Je vous en prie, au revoir.
Au revoir. 04 95 32 22 22, si comme Marie, vous avez des questions sur le divorce, sur la séparation à poser à Maître Bastien Kerr, qui est un expert en la matière, eh bien, vous nous appelez, Carole vous accueille au standard, et puis moi, je lis tous vos messages sur nos réseaux sociaux, France Bleu RCFM. Restez bien attentifs aussi parce que dans quelques minutes, vous risquez d'entendre un petit jingle qui va vous annoncer le jeu. Et bien évidemment, vous l'attendez tous, c'est le calendrier de l'Avent. Restez bien attentifs.
Basta che la caschiano, e stelle lumi uigheranno, e stelle le barreunne hanno, vade che la caschiano. Oh, chi se non si strappa d'umaia, chi se li la basta ni sogni, mi giureranno rigore di verazzi cama ogni stonda da.
gli scala, sento borso da vita gli scala, un accendite e un fragasso, si fa già sgrigna d'un ideale, batte un borso di vita. Oh, e se non so fate per dorme, un veglio non è mai morre, un mare la verrà anche, non sa vergognaccia di sendegno e di illuso, luna una rompidusa, poco nome che tu n'hai, luna una rompidusa, poco luogo per sbarcare.
Alba Limpidusa.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
On parle divorce ce matin dans Les Experts avec Maître Bastien Kerr, un expert en la matière. Alors Bastien, je souhaite qu'on rebondisse un petit peu sur le cas de Marie. Vous lui conseillez d'essayer un divorce par consentement mutuel. On va déjà expliquer ce que c'est. Mais je voudrais qu'on définisse quels sont les risques à rester comme ça pendant 20 ans. Marie a quelqu'un avec qui on ne vit plus. Il y a quand même des risques. Je pense notamment à si on contracte des crédits.
Deux risques qui peuvent s'inférer d'une telle situation. Le premier, c'est un risque fiscal, puisque, vous savez, les époux sont solidairement tenus du paiement de l'impôt jusqu'au prononcé du divorce, ça c'est une première chose. Et on a un risque par rapport éventuellement, oui, au crédit qui pourrait être souscrit par l'un des époux. Alors, on a quand même des règles en la matière, tout dépend du régime qui a été choisi par les époux, si on est dans un régime de séparation de biens ou un régime de communauté. Si on est en séparation, si le crédit est souscrit par un des époux à des fins personnelles, l'autre ne sera pas inquiété. Néanmoins, si on est dans le cadre d'une communauté, le second peut être bien évidemment inquiété par la banque. Et il y a une règle en la matière qui est très importante, peu importe le cas de mariage, c'est-à-dire qu'on soit sous le régime de la séparation ou sous le régime de la communauté, c'est le caractère commun des dettes ménagères. C'est-à-dire que si on souscrit un crédit dans l'intérêt de la famille et pour les dettes du ménage, notamment à ce niveau-là, on sera solidairement tenu. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un époux, je vous donne un exemple, qui va souscrire 2 ou 3 000 euros de crédit pour les biens de la famille, pour notamment pour meubler la maison, etc. Ce seront des crédits qui seront communs puisqu'ils auront servi dans l'intérêt de la famille. Donc même si il n'y en a qu'un seul qui l'a souscrit, il y a une seule signature, on aura à ce niveau-là une possibilité de communauté et de solidarité.
Exemple, un mari ou une femme qui joue et qui souscrit un crédit pour assouvir ses dettes de jeu ou autres dettes, comment ça se passe?
Alors là, c'est ce qu'on appelle une dépense manifestement excessive qui ne rentre pas dans le caractère solidaire des dettes du ménage. Et l'époux, alors quand on est en séparation de biens, bien évidemment, il n'y aura aucun problème. Quand on est en communauté, cet époux-là, bien évidemment, on sera exactement sous le même régime. Si on est sur une dette qui n'a pas servi au ménage, bien évidemment, l'époux qui a souscrit ce crédit sera la première personne visée.
D'accord. On a une question sur l'impôt. Comment je déclare les revenus l'année de la rupture, nous demande Karine.
Alors, l'année de la rupture, c'est-à-dire, est-ce que on parle bien de l'année du divorce, parce que la rupture, ça peut être justement la séparation de fait, hein, c'est-à-dire le fait de quitter le domicile.
On va faire les deux dans le
doute. Voilà, mais quand on est dans le cas d'un divorce, bien évidemment, on peut faire une déclaration séparée, il n'y a pas de débat. Là, va se poser la question des effets du divorce. Puisque en fait vous allez pouvoir, alors la loi aujourd'hui explique que les effets du divorce à l'égard des tiers ne peut jouer qu'à compter du jour du prononcé du divorce. Les époux ont néanmoins la possibilité de faire remonter ces effets tous les deux en le décidant d'un commun accord, et le juge entérine. Il faut bien évidemment avoir une raison pour ça. Ça peut être notamment des raisons en termes de crédit, hein, sur ce genre de situation. Donc on peut très bien décider de faire remonter les effets du divorce un an auparavant ou au moment de l'introduction de l'instance en divorce. Et si vous voulez, à partir de ce moment-là, le caractère solidaire du remboursement des dettes tombera, puisqu'on on remonte les effets à une date antérieure à la date du prononcé du divorce. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, oui. Mais ce que je vais expliquer, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a soit la possibilité, au jour du divorce, d'avoir une possibilité de séparation même d'avis d'imposition, et après on peut décider de faire remonter les effets du divorce d'un commun accord, notamment à l'égard des tiers. Alors, exception, bien évidemment, en matière fiscale, puisque les impôts, eux, n'ont que faire de cette problématique de faire remonter les effets du divorce. Mais au niveau des dettes qui ont été souscrites par les époux personnellement, ça a un intérêt, bien évidemment, de faire remonter les effets du divorce.
On continue dans le domaine bancaire, Maître Bastien Kerr. J'ai été mariée durant 10 ans à un pervers manipulateur. Il a vidé le compte de ma fille pour faire un apport pour s'acheter un véhicule de luxe, puis exiger le retour de cet argent sur le compte de ma fille une fois le divorce prononcé. Nous demande Valérie.
Alors, c'est une question qui est assez complexe au niveau de la réponse, puisque en réalité, il faut voir quelles ont été les règles d'ouverture de ce compte bancaire. C'est-à-dire que si les parents ont procuration sur le compte, quand bien même cette personne, cette jeune mineure avait de l'argent, l'un des deux parents, et en plus il faut voir qui a financé ce compte bancaire. Donc, si vous voulez, la réponse est difficile à donner. Ça va dépendre du contexte dans lequel le compte bancaire a été ouvert et qui l'a alimenté. Si le père l'a alimenté et qu'il a procuration sur le compte, il pourra tout à fait l'utiliser. Malheureusement, ça se voit très souvent dans les dossiers. Après, s'il n'avait pas procuration...
Elle me répond, parce que c'est des messages que je reçois en live. Hein. Elle me répond, il n'a rien à m'alimenter du tout. Voilà, ça donc, c'est dit.
Sur le plan des principes, oui, mais il avait néanmoins une procuration. S'il a réussi à utiliser cet argent sur le compte, donc ça veut dire qu'il avait le droit d'utiliser cet argent. Après, il faudra...
Quand on ouvre un compte, justement, à un enfant, ça peut servir. Quand on ouvre un compte à un enfant, les deux parents doivent obligatoirement être au courant, d'accord, et signer, justement, pour ouvrir un compte à un enfant.
Alors, ça dépend des établissements bancaires, mais la pratique fait qu'aujourd'hui, quand on ouvre un compte bancaire, on demande l'accord des deux titulaires de l'autorité parentale.
Donc, ce qui veut dire que, potentiellement, les deux parents ont procuration, entre guillemets, sur le compte.
C'est généralement le cas, mais après, ça dépend, c'est du cas par cas, d'accord. En fonction des situations.
D'accord. On a une question, je suis en cours de divorce et mon ex-mari a contracté des crédits dans mon dos. Peut-il me contraindre à régler ses mensualités une fois le divorce prononcé ?
Alors c'est ce que je viens d'expliquer, voilà, hein. Tout à fait. Voilà. Il va falloir regarder quel est ce crédit, sous quel régime déjà les époux étaient mariés, est-ce que c'était sous le régime de la séparation ou de la communauté. Donc si on était en séparation et que ce crédit n'a pas été souscrit dans l'intérêt du ménage, bien évidemment, il n'y aura aucune difficulté, ce sera que la personne qui l'a souscrit qui devra le rembourser et l'autre époux ne sera pas inquiété. Si on est en communauté et que la personne l'a souscrit pour des dépenses manifestement excessives, également ce sera à lui de la voilà. Régler, sauf si c'est dans l'intérêt du ménage, c'est ce que j'expliquais tout
c'est
à l'heure.
C'est ce qu'on expliquait. On a une autre question, Karine, qui nous dit « Lorsque le divorce s'annonce conflictuel, quelle procédure me conseillez-vous, Maître Bastien Kerr ?»
Alors c'est très compliqué parce que ça va dépendre du conflit à proprement parler. Il faut savoir que les avocats, on arrive quand même quand c'est conflictuel, dans bien des cas, à essayer d'apaiser la situation et surtout quand il y a des enfants au milieu. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, on va en parler, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça dépend vraiment de la nature du conflit. Si c'est un problème d'ego, j'ai envie de vous dire, c'est très très difficile à alimenter. Après, on peut comprendre, hein, dans les ménages, les choses qui se passent, on en voit tous les jours. Si c'est conflictuel, ça va dépendre du motif.
C'est-à-dire,
s'il y a des violences, s'il y a juste un adultère, s'il y a simplement les époux qui ne s'entendent plus et qui veulent se séparer. Voilà, le conflit, on peut ne pas s'entendre sans pour autant partir sur un divorce pour faute, qui est aujourd'hui d'ailleurs difficile à mettre en œuvre. Voilà, donc ça dépend vraiment de la situation.
J'ai dit Karine, c'est Camille. Camille, précisez-nous si jamais ce que c'est, comme ça on pourra faire le point avec vous. Ça sera tout de suite après la météo et après le journal.
RCFM vous ouvre les portes de son cabaret.
Elle chante depuis toute petite, un premier album de création sorti récemment. Delphine Giraud, l'ami, est cette semaine sur la scène du cabaret. Participez gratuitement à l'enregistrement de l'émission en nous appelant sans plus attendre au 04 95 32 22 22.
Le cabaret, enregistrement ce jeudi dès 18h30 à Spertimouziga, 5 rue des Zéphyrs à Bastia.
Le cabaret avec Citroën Socodia à Biguglia et Porto Vecchio.
RCFM, Sabienza, Jean-Michel Fradigelli, Fabrice Fenouillère.
Sabienza, l'émission de tous les savoirs. Allez de surprise en surprise, de surprise en découverte. Chaque samedi matin, de 11h30 à midi, et quand vous voulez, sur Bleu RCFM.
La météo avec Agir Plus d'EDF, la collectivité de Corse et l'ADEME. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
La journée est dans l'ensemble très ensoleillée, cependant des averses peuvent tomber le matin et se développer ensuite en orage sur le relief. Localement, les plus forts cumuls de pluie attendus peuvent atteindre 20 mm. L'Ibetch généralement assez fort avec des rafales atteignant localement 85 km/h en journée pour les températures maximales comprises entre 12 et 15 degrés et 5 degrés sur le relief. RCFM, il est 10h. Le point sur l'actualité, Didier Arnoux, bonjour.
Bonjour, avec une Corse qui vient d'être placée en vigilance météo de niveau jaune pour le phénomène vent fort jusqu'à 18h. De fortes rafales avec du déferlement sont attendues en Balagne, dans le Cap, la région bastiaise, avec des rafales les plus importantes en milieu de journée, 110 à 120 km/h, j'ai jusqu'à 150 dans le Cap. Le vent devrait faiblir ensuite progressivement en fin d'après-midi. La crise des déchets est bien partie pour durer encore longtemps, c'est ce que indique le collectif Valinkulinu. Et cela, ça a été fait lors d'une réunion publique sur les déchets organisée dans le Cap Corse. Le centre d'enfouissement de Vigianello est toujours fermé depuis plus d'un mois. Les ordures s'entassent en Corse. Les membres du collectif Valinkulinu ne veulent plus que Vigianello soit la poubelle de la Corse. Un collectif qui demande de rencontrer tous les protagonistes autour d'une même table, représentants de l'État, collectif de Corse, Civadec et Communauté des communes. Un manifeste pour sauver la châtaigneraie, un appel a été lancé à Bocognano par le collectif Pearina Cittadino Castagnedo Paesano. L'objectif est de relancer durablement la culture du châtaignier corse. Le collectif en appelle au pouvoir public afin de l'aider à financer ce projet. Alors que la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit avec une nouvelle journée d'action demain, c'est un Binti Minoudi un petit peu particulier que nous vous proposons aujourd'hui. Plus social que politique, Patrick Mitchigua recevra Jean-Pierre Battestini, secrétaire départemental de la CGT, qui passe la main après 40 ans de syndicalisme. Binti Minoudi, 12h10, 12h30 sur RCFM et Bleu RCFM. Ayatchouinko, et ce sera le nom, c'est le nom de la liste Corinne Front. Et pour les prochaines municipales à Ajaccio, Jean-Marc Lanfranc, qui tête de liste, a présenté les principaux axes de son programme. Trois grands thèmes, l'urbanisme, le social et la culture. Corinne Front souhaite par exemple attaquer le PLU, instaurer la gratuité des transports en commun ou encore piétoniser la vieille ville.
Merci Didier, on vous retrouve à 11h pour un prochain point sur l'actualité.
France Bleu présente la tournée « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus 3 ».
Le masculin seul ne sert à rien. Mais le féminin seul n'est pas la solution non plus.
Il touche au sublime, le pauvre.
Paul Devendre et Thierry Garcia dans un tout nouveau spectacle pour mieux se comprendre et mieux s'aimer.
Paul Devendre, la super glue du couple contemporain.
Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus 3. En 2020, toujours en tournée dans toute la France, une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Sur France 5.
Le déficit total de notre pays sera autour d'une cinquantaine de milliards d'euros.
S'il n'y a pas d'équilibre, il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin.
Est-ce qu'on va au-devant d'une crise ?
On va diminuer quoi ? Les écoles, les hôpitaux ?
On ne reviendra pas sur la fermeture de la maternité.
Pour comprendre le piège de la dette, c'est dans l'air spécial, un documentaire porté par Caroline Roux, demain à 20h50 sur France 5.
Joyeux Noël !
RCFM, Christina Loudzi, les experts.
Et bonjour et bienvenue dans les experts. Si vous nous rejoignez en cours d'émission, on parle aujourd'hui de divorce. Le divorce n'est pas récent en France, il a été autorisé depuis des cinquantaines d'années. Toutefois, il devient important actuellement. En effet, le taux de divorce entre les couples français augmente de plus en plus. Selon les statistiques, 10 couples mariés sur 1000 divorceraient chaque année. En ce qui concerne le pourcentage, ça fait en moyenne 45% des ménages. Ce chiffre est vraiment très élevé par rapport à d'autres pays. On en parle ce matin avec Maître Bastien Kerr, avocat au barreau de Nice, qui est toujours avec nous, Maître.
Oui, toujours.
Alors, juste avant la pause, on le disait, on parlait du divorce par consentement mutuel. Un divorce entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Les époux peuvent divorcer sans juge, maître.
Tout à fait, tout à fait. Encore une fois, l'idée là du législateur était de simplifier le divorce et surtout de désengorger les juridictions qui n'ont que beaucoup trop de dossiers de divorce. L'idée, c'était simplement d'accélérer la procédure sans passer devant un juge. Voilà, la procédure est très simple. Les avocats se mettent en relation. Donc chaque époux est représenté par un avocat, ce qui est très important pour avoir une indépendance.
Donc on prend plus le même avocat. Ça, c'était avant.
Tout à fait. Avant, c'était, on avait la possibilité de prendre un avocat pour les deux époux. Maintenant, c'est, ce n'est plus possible dans ce divorce-là. Il faut avoir un avocat par époux. Bien évidemment, donc l'idée, c'est de se mettre autour de la table et de discuter de toutes les modalités du divorce. Il faut bien évidemment un accord total sur toutes les modalités.
Donc total,
sur
c'est la résidence des enfants, la pension
résidence
alimentaire.
Résidence des enfants, pension alimentaire, éventuellement prestations compensatoires s'il y a lieu entre les époux. Donc il faut vraiment un accord total. Une fois que cet accord est entériné, les avocats envoient par courrier recommandé à chacun des époux la convention. Ces derniers, une fois qu'ils l'ont réceptionnée, disposent d'un délai de 15 jours de réflexion, qui est un délai prévu à peine de nullité, c'est-à-dire qu'on est obligé d'attendre l'expiration de ce délai de réflexion pour pouvoir signer lors d'un rendez-vous commun la convention de divorce avec les époux et les avocats, en présence des époux et des avocats. Une fois que cette convention de divorce est signée, elle part chez le notaire dans un délai de 7 jours, et celui-ci a 15 jours à réception pour la transcrire sur le rang des minutes du notaire, donc sur le logiciel prévu à cet effet, pour pouvoir l'enregistrer.
Et donc un divorce très rapide, maître.
Très rapide, c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on arrive à se mettre d'accord, c'est un divorce qui, globalement, entre un mois et demi et deux mois, peut être entériné facilement.
Dans le cas où un enfant mineur du couple souhaite être entendu vers le juge, on se tourne vers cette procédure du consentement mutuel, mais judiciaire.
Tout à fait. C'est l'exception à la procédure par consentement mutuel par acte d'avocat. Si un des enfants en âge de pouvoir être entendu par un juge sollicite d'être auditionné, c'est un circuit qui part vers le tribunal de grande instance et le juge aux affaires familiales qui l'entendra dans ce cadre-là.
Donc cette procédure de consentement mutuel judiciaire, comment ça se passe? On dépose une requête commune quand même?
Alors non, ça c'est les avocats qui vont faire le travail. Ça peut être une requête commune. Oui, tout à fait. Ça peut être une requête commune, donc contresignée par les deux. Et bien évidemment, il faut joindre dans ce document le courrier de l'enfant qui souhaite être entendu par le juge. Voilà.
D'accord. Donc c'est l'enfant qui fait la demande.
Tout à fait.
Quel est l'intérêt justement de faire s'exprimer un enfant devant le juge des affaires familiales dans le cadre de violence?
En pratique, ça peut avoir un intérêt. Il faut savoir que les enfants qui demandent à être auditionnés ont très souvent entre 8 et 13 ans ou 14 ans. Le plus jeune que j'ai eu moi à traiter avait 8 ans et demi. Si vous voulez, l'intérêt, c'est pour le juge de s'imprégner d'une situation dans un domicile. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Mais les juges sont quand même relativement attentifs, parce qu'ils savent que un enfant qui vient pour se confier endosse nécessairement, surtout quand il est jeune, le discours d'un des deux parents. Donc si vous voulez, aujourd'hui ça a une importance parce que ça peut permettre de mettre en lumière certains éléments qui peuvent se passer dans un domicile, mais on sait dans la pratique que souvent les enfants peuvent être manipulés, si je puis dire, par un des parents pour obtenir finalement gain de cause dans le cadre d'une procédure.
Et comment on réussit justement à faire la part des choses? Il y a des expertises psychologiques qui sont mises en place?
Tout à fait, il peut y en avoir, c'est-à-dire que si le juge a un doute, il a la possibilité d'ordonner une enquête sociale où justement les parents vont être vus par un expert qui va également se rendre au domicile, voir les conditions de vie des enfants, auditionner les enfants également pour connaître le contexte de la famille, rendra un rapport au tribunal. Ce dernier après décidera de l'appliquer ou pas, mais très souvent ce sont des rapports qui sont largement suivis par les juridictions.
Justement, on parle des enfants. Quelles seront les incidences d'un divorce sur les enfants?
Alors, les incidences, j'ai envie de dire juridiques, sont des incidences de garde, finalement, puisque soit on va rester en garde alternée, soit on va être en garde classique. Après, on va avoir des incidences psychologiques. Quand on est dans une rupture, c'est très souvent difficile pour les enfants. Et d'ailleurs, on se rend compte dans les dossiers que les parents, très souvent, finalement ne sont pas assez conscients de la dangerosité d'une telle procédure, j'ai envie de dire, sur le plan psychologique pour les enfants.
Et les enfants sont souvent pris en otage.
Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est ce que j'expliquais. Très souvent, on peut avoir des enfants qui vont endosser le discours d'un parent au détriment de l'autre parce qu'ils ont l'habitude de résider avec celui-ci. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on demande, enfin, dans le cadre des procédures, le témoignage des ascendants et des descendants sont interdits dans ce genre de situation.
Quels sont, on parle beaucoup en ce moment, hein, malheureusement, il y a beaucoup de cas où on divorce pour des faits de violence.
Tout à fait.
Quand ça se passe comme ça, quand c'est vraiment conflictuel à ce point, comment ça se passe, maître ?
Alors, écoutez, il y a plus moi, le conseil que je peux donner, si on a des faits de violence qui sont avérés, c'est immédiatement déposer plainte, parce qu'aujourd'hui c'est un cas qu'on voit qui est très largement relayé par les médias, mais c'est un cas qui est pris très au sérieux par les services de police et par la justice. Donc, quand on a vraiment des violences, il faut pas hésiter une seule seconde à les dénoncer. Après, d'un point de vue pratique, ces violences, bien évidemment, on a un arsenal législatif qui nous permet de pouvoir protéger la personne victime de violence. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'une femme qui aurait été violentée, qui a des enfants. On a une procédure d'urgence qui s'appelle la procédure d'ordonnance de protection. C'est-à-dire qu'on saisit le juge en urgence en justifiant des faits de violence que la personne a subis avec le dépôt de plainte, les certificats médicaux. Et on demande à ce que, provisoirement, le père, dans ce cas de figure, soit éloigné de la mère et des enfants, s'il y en a, pour ne pas que les faits de violence se répètent. Et ça aura nécessairement une énorme incidence sur la procédure de divorce derrière.
Fanny nous demande, qu'en est-il des faits de violence psychologique ?
Alors, le problème des violences psychologiques, c'est très difficile à mettre en œuvre. Il faut à démontrer, je veux dire. Il faut très souvent, ça va être par le biais d'experts médicaux.
Donc, fait de violence psychologique. Est-ce que vous pouvez préciser, Fanny, peut-être qu'est-ce que vous entendez ? Parce que ce sont des menaces verbales. Comment ça se passe, des menaces verbales, par exemple ?
Sur des menaces verbales. Après, il faut voir quelle est l'intensité des menaces verbales. C'est toujours pareil. On peut avoir si on a des menaces qui sont répétées et qui posent un vrai problème, il faut arriver à le démontrer. Donc bien évidemment, il faut pas avoir peur de qu'il y ait des écrits, qu'il y ait des témoins, parce que ce seront des choses qu'il faudra démontrer dans le cadre d'une procédure quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'il faudra démontrer l'existence de cette problématique psychologique.
Voilà, donc Fanny, si vous pouvez juste nous préciser votre demande sur Facebook, bien évidemment, et vous aussi, hein, 04 95 32 22 22, si vous avez des questions pour maître Bastien Kerr, Carole vous accueille au standard. On a une question, puis-je acquérir ou vendre un bien immobilier pendant ma procédure de divorce, Marc ?
Alors, ça dépend du régime. C'est toujours la même chose. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une séparation ? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une communauté, donc dans au niveau du mariage ? Est-ce qu'on est en séparation de biens ou en communauté de biens ? De toutes les façons, d'une manière générale, ce qu'on invite les clients à faire, c'est d'attendre que le divorce soit prononcé pour acquérir un bien. Alors là, dans le cas d'espèce, si on est en séparation de biens et que l'acquisition vient de fonds propres, il n'y aura pas de difficulté. Mais il est toujours préférable d'attendre la fin de la procédure de divorce pour acheter un bien.
Pour acheter un bien, voilà Marc.
Tout à fait.
Maître Bastien Kerr, une question encore sur les enfants. J'ai toujours refusé que des photos de mes enfants soient diffusées sur les réseaux sociaux. Depuis ma séparation, mon ex-mari met des photos de mes enfants sur les réseaux sociaux. Quels sont mes droits ?
Alors, les droits, c'est ce qu'on appelle le droit à l'image, hein, et l'atteinte à la vie privée. Donc, on a la possibilité, bien évidemment, de mettre en demeure un des deux parents qui se rend coupable de publication de photographies sans l'accord du second, de retirer ces photographies. Et si jamais il n'y défère pas, on peut tout à fait saisir un juge en urgence pour demander le retrait. Après, il y a quand même un bémol à mettre à cette règle, c'est que tant qu'on est dans une sphère qui est privée, qui n'est pas public, le papa qui est titulaire de l'autorité parentale ou la maman qui veut mettre des photographies a le droit de le faire sans que ça soit exposé au grand public. Voilà, c'est juste la nuance.
Donc en général, quand on met des photos sur les réseaux sociaux, c'est pas pour le garder pour soi.
Tout à fait.
04 95 32 22 22, on parle divorce ce matin dans Les Experts et puis on parle autre chose, j'entends quelque chose qui arrive. Serge ?
C'est l'heure des cadeaux.
Ah, 04 95 32 22 22, c'est l'heure d'ouvrir la case du calendrier de l'Avent et ça sera tout de suite après Gims et Sting. Reste.
Comme la lune,
apparaît dans ma vie. Comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. And every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with us in the sunlight. As the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où.
Je ne me vois pas.
C'est où, où, où.
Mais je suis
et
là.
Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas.
C'est où, où, où.
Je ne me vois pas.
C'est où, où, où.
Mais je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait.
Gims et Sting, reste.
Et alors tes cadeaux sur CFM.
Et c'est Antonia qui a entendu notre jingle de Noël, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien Antonia?
Très bien, très bien, très bien.
Vous nous appelez d'où?
De Francardo.
Ah, génial. Quel temps il fait à Francardo? Il ne fait pas trop froid?
Beau, hein.
Ah,
non,
bon.
Non. Oui, froid, oui.
Comme c'est après, hein?
C'est mon hiver, non moins.
Allez. Alors, ah, ben, alors, ah, Edwin, tout haut, hein?
Oui.
Alors, vous avez des enfants, des petits-enfants?
J'ai des petits-enfants, oui.
Ah, quel âge ont-ils?
Oh, la plus grande, elle a 22 ans.
Ah oui, une grande petite fille.
Voilà. Et la petite, la dernière, elle a 8 ans.
Ah, ben super. Alors, vous avez gagné ce matin un puzzle vertical de la marque Jeannot pour votre petite fille. C'est bien les puzzles, oui, pour éveiller l'esprit. Un lot 5 minutes de moments complices aux éditions Minus. C'est pour bien tester si on se connaît si bien que ça. C'est sympa pour jouer, oui, en famille. Et un lot les jolies planches. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un cadeau qui réveillera aussi bien la déco que le cerveau. C'est vraiment des planches qui sont très très bien faites. Vous verrez. Et puis, oui, vous nous donnerez des nouvelles. Hein.
D'accord.
Et puis
d'accord.
en plus, vous gagnez, bien évidemment, un bon pour participer à notre tirage au sort vendredi pour gagner un lot absolument magnifique cette semaine, une nuit au Sofitel de Portici.
Waouh.
Voilà. Donc peut-être à vendredi, vous restez à l'écoute d'accord. et on vous appellera peut-être vendredi.
D'accord. Merci
Antonia, à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Au revoir. Alors nous, Maître Bastien Kerr, on parle divorce ce matin dans les experts avec tout plein de questions.
Je me doute.
Eh ben oui. On parlait des enfants justement juste avant la pause. On avait une question. Mon ex futur a-t-il le droit d'emmener dormir ma fille chez sa nouvelle compagne?
Alors, c'est la règle. Ouais, la règle est claire et on vient de le comprendre à travers la question. Tant qu'un juge n'a pas tranché, les deux parents ont l'autorité parentale et peuvent tant qu'il n'y a pas eu de décision de justice, peuvent tout à fait librement décider d'emmener l'enfant dormir un peu où ils veulent tant qu'ils y font attention.
Ce qui veut dire que l'enfant a le devoir quand même d'avoir un environnement. On le disait tout à l'heure, on parlait des conséquences psychologiques. C'est un petit peu aux parents d'avoir du bon sens quelque part.
Bien sûr que les parents doivent avoir du bon sens avec les enfants, puisque on sait et toutes les études le démontrent que les répercussions psychologiques sur les enfants d'un divorce conflictuel peut amener, ou d'une séparation, pas forcément d'un divorce, mais peut amener de gros problèmes à l'avenir. Donc oui, il faut faire attention. Après, encore une fois, tant qu'un juge n'a pas tranché, les parents peuvent faire ce qu'ils veulent de leurs enfants, et il n'y a pas de règle en la matière. Bien évidemment que si un des parents fait n'importe quoi avec son enfant avant qu'un juge ait tranché, l'autre parent s'en emparera pour le dire au juge, qui nécessairement tiendra compte de ce genre d'agissement s'ils ont posé problème avant sa décision.
Justement, on parle d'emmener dormir les enfants, etc. Est-ce qu'il y a un âge un âge en dessous duquel on sépare pas l'enfant de sa maman, puisque bon, c'est la maman qui parle là pour le coup. Mais...
Ouais. Écoutez, le problème c'est qu'il n'y a pas de loi en la matière. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle légale qui impose un délai minimum pour séparer les enfants de la maman.
C'est-à-dire qu'un bébé de 6 mois, par exemple, ou d'un an, peut aller dormir chez son papa tout un week-end sans sa maman.
Tout à fait. Il n'y a aucune difficulté là-dessus.
D'accord. On a une question de Marie-France qui nous dit: est-ce que je peux prétendre à une prestation compensatoire? Ça va être compliqué de vous répondre comme ça. Alors qui peut prétendre à une prestation compensatoire plutôt?
Alors la prestation compensatoire, déjà peut-être la définir pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. La prestation compensatoire, c'est une somme très souvent une somme en numéraire qui va être versée par un époux à l'autre. Pourquoi? Pour réparer ce qu'on appelle la disparité que va entraîner des niveaux de vie que va entraîner le divorce. Puisque d'une manière simple, on peut expliquer, on a des époux qui vivaient ensemble, qui avaient à deux, monsieur gagnait 5000 euros par mois, madame 2000, donc ils avaient à eux deux 7000 euros de revenus par mois. S'ils se séparent, madame, elle se retrouve qu'avec ses 2000, notamment. Donc le niveau de vie et ses conditions de vie va nécessairement être impacté par cette rupture. La prestation compensatoire, elle a pour but, alors bien évidemment sous toute une série de critères, puisqu'il faut l'envisager avec pas mal de critères, les années de mariage, on a un des époux qui a arrêté de travailler pour se consacrer à la famille, etc. C'est autant de choses et de critères qui vont être pris en compte pour établir le montant de la prestation compensatoire qui peut être demandée à l'autre époux.
Alors François nous demande, on n'est pas passé devant le juge, ai-je le droit de ne pas donner de pension alimentaire à mon ex-femme qui est un vrai panier percé ?
Tout à fait. On est dans la même logique que est-ce qu'un papa peut prendre son enfant en l'absence de décision judiciaire. Tout à fait. On a la possibilité pour un papa ou une maman, quand il y a une séparation, de ne pas donner de pension alimentaire à l'autre parent tant que le juge n'est pas intervenu. Alors après, il faut néanmoins faire attention, puisque on peut considérer, et le juge le regarde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une séparation des époux et qu'on a un niveau de vie qui est loin d'être équivalent, dans bien des cas, le papa directement et en l'absence des décisions judiciaires aide la maman financièrement pour l'enfant. Ce n'est pas une obligation, ce sera nécessairement pris en compte si demain il y a une demande qui est faite à ce titre, qui considérera et qui mettra en avant le fait que le père a toujours contribué aux charges liées à l'enfant. Donc ça peut être positif dans le cadre d'une procédure judiciaire. Après, encore une fois, il n'y a aucune obligation.
Marie-Jo nous demande: que deviennent les donations et autres avantages que les époux se sont consentis?
Alors, la règle en la matière, c'est que les avantages matrimoniaux et donations prennent fin avec le prononcé du divorce. C'est codifié dans le code civil. Donc, on a une révocation finalement des avantages qui ont été faits et des donations qui ont été faites pendant le mariage.
Une autre question là-dessus. Dans le cadre d'un divorce, quels sont les documents à fournir au notaire pour préparer le partage? Partage des biens, je suppose.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est là, on va encore plus loin hein, dans le divorce. Mais si vous voulez, le notaire, il a pour but de liquider la communauté, c'est-à-dire de préparer ce qu'on appelle l'acte liquidatif de la communauté. Où en fait, le notaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les éléments de l'actif de la communauté et les éléments du passif. On peut dire très clairement, dans le cadre d'un bien immobilier qui est financé par un crédit, on a un bien immobilier donc qui va constituer l'actif et le passif ce sera le crédit immobilier. Donc bien évidemment, lui dans son acte qu'il va préparer, il va avoir besoin de tous les éléments liés au crédit, aux biens immobiliers qui sont détenus par la famille. Voilà, c'est ce genre de justificatif là dont il va avoir besoin pour préparer son acte.
Voilà. Quelles sont les nouvelles armes qui sont données au JAF, au juge des affaires familiales, dans l'intérêt bien sûr de l'enfant? Et ce, même dans un cas de divorce par consentement mutuel sans juge.
Alors, les armes.
Oui, les armes, alors, c'est peut-être pas bien choisi comme mot.
Oui. Alors, vous parlez au niveau de la nouvelle réforme, c'est
oui,
ça?
Oui, la nouvelle réforme, oui. Alors, parce qu'on a des questions là-dessus, du coup.
Oui, bien sûr. Bah, si vous voulez, il y a deux, trois éléments, enfin, deux, trois choses que le juge va pouvoir faire et qu'on ne pouvait pas demander avant. On va avoir la possibilité, notamment, de solliciter sous astreinte certaines choses. Notamment, la remise du passeport et des documents d'identité. Parce qu'on a très souvent, quand c'est conflictuel, des problématiques de liaison au niveau des passeports et des cartes d'identité pour les enfants qui ne suivent pas nécessairement l'enfant quand il passe du père chez la mère ou de chez la mère.
Donc c'est pour empêcher quelque part une interdiction de sortie de territoire?
Non, c'est justement pour permettre à un moment donné la remise du passeport. Je donne un exemple.
Remise du passeport, oui.
Voilà, tout à fait. Sous astreinte. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas cette possibilité-là de demander au juge à ce que des documents soient remis sous astreinte. Là, ça revient avec la réforme. On peut avoir une amende civile qui peut être donnée par le juge au papa ou à la maman qui n'a pas respecté les obligations liées aux enfants, notamment. Ça peut être de la remise d'enfants, ça peut être de la pension alimentaire, ça peut être pas mal de choses hein, à ce niveau-là.
Donc une réforme qui vise quand même à permettre à l'enfant d'entretenir quelque part des liens avec ses deux parents. Pour faire respecter ses décisions.
Et on a la mesure phare finalement de la réforme, c'est la possibilité de demander le recours à la force publique pour le respect de l'autorité parentale. C'est notamment quand on a des absences de remise d'enfants. Là on part dans des cas très conflictuels, mais la police pourra intervenir immédiatement.
S'il vous plaît, pour le bien de vos enfants, évitez quand même de faire ce genre de choses. Hein, on a aussi un petit message de bonne conscience et de bon sens pour les parents
et
ce matin.
Et d'apaisement.
C'est ce que vous essayez de faire au quotidien, je suppose.
C'est ça. Ben, si vous voulez, dans notre métier, on est confronté tous les jours aux problèmes des gens et très souvent aux conflits. Et on voit que très souvent dans les dossiers, il y a beaucoup de questions de principe plus que de réflexion, si on peut dire. Et le rôle de l'avocat, au-delà de défendre les intérêts de son client, c'est quand même d'amener son client à prendre conscience qu'il y a des enjeux qui sont bien plus importants que sa question de principe.
Tout à fait. Alors, on arrive en fin d'émission. Déjà, ça passe très vite. On va parler coûts. Combien ça coûte un divorce, maître Bastien Kerr?
Alors, écoutez, après, ça dépend de la procédure en elle-même, donc du type de procédure choisie. Il faut
donc
savoir
un divorce par consentement mutuel va revenir moins cher.
Un divorce par consentement mutuel revient nécessairement moins cher puisque c'est beaucoup plus rapide et ça demande moins de travail pour l'avocat qu'un divorce contentieux où, comme vous l'avez compris, il faut plus d'un an ou un an et demi pour être divorcé sur le régime actuel.
Donc, par consentement mutuel, une fourchette entre eux, c'est pas possible.
Si vous voulez, nous, on a des règles qui consistent à appliquer un tarif en fonction des difficultés qu'il y a dans le dossier. S'il y a des enfants, s'il n'y a pas d'enfants, s'il y a du patrimoine, s'il n'y a pas de patrimoine, voilà. Donc, en gros, ça peut aller de 1200 à 2500 euros pour un divorce par consentement mutuel. Et un divorce contentieux, il faut compter à peu près entre 2000 et 3000 euros.
Ah, d'accord. Et pour un divorce pour faute, c'est bien plus important, je suppose.
Oui, voilà, c'est ça. On va très vite partir sur une fourchette qui peut aller de 2500 à 3500 euros.
Donc, on rappelle quand même que depuis le 1er janvier 2013, une convention d'honoraires doit être établie obligatoirement.
Oui, tout à fait. On a cette, enfin, c'est une obligation légale, hein, qui nous impose de soumettre à notre client une convention d'honoraires où l'intégralité des diligences qui vont être effectuées sont facturées. Donc, on explique au client la facturation et le coût finalement de cette procédure. C'est un contrat qui lie l'avocat à son client, qui prévoit tous les cas, notamment contentieux, parce qu'après on peut aussi en pleine procédure contentieuse, alors qu'on a signé une convention une convention d'honoraire avec le client, finalement trouver un accord avec les parties et basculer sur un consentement mutuel. Donc si vous voulez, on peut, il y a pas mal d'aléas qui peuvent survenir, mais on essaie de tous les prévoir dans la convention d'honoraire entre le client et l'avocat.
Et vous pouvez bien sûr pas être rémunéré en fonction uniquement du résultat judiciaire, hein, on le rappelle quand même aussi.
Tout à fait.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Bastien Kerr, d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous, d'avoir suivi notre émission. Vous pouvez la retrouver dans son intégralité en podcast sur notre site internet France Bleu RCFM et la commenter sur nos réseaux sociaux.